Yann et Frank est fier de s'associer à l'entreprise québécoise RangeBrand.ca, le brand numéro 1 de vêtements western au Canada. Si t'es à la recherche de vêtements de qualité disponibles dans toutes les tailles et qui vont se démarquer par un look incroyable et original, viens faire un tour sur RangeBrand.ca. Casquettes, t-shirts, hommes et femmes, hoodies, camisoles, montres et une foule d'accessoires sont disponibles. Livraison gratuite avec une commande de 99$ et plus. RangeBrand.ca.
Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le stade olympique. Une belle grosse toilette de 870 millions. Je vais dire toilette parce que je ne dirai pas exactement ce que je pense de cette là.
Qu'on rentre dans le stade, Yann, là, il y a une clip qui fait le tour du monde en ce moment.
Monsieur.
Je l'ai vu partout, hein, dans les journaux canadiens, anglais, c'était même la presse, puis les journaux qui trippent ces démocrates n'ont pas le choix de la passer. Là. Je l'ai vu dans le Figaro, je l'ai vu. Bref, ça fait le tour du monde. C'est Biden qui, c'est un peu les...
Mais c'est quoi ça prend là, pour que les démocrates allument qu'il faut un autre président de leur côté, là?
Ça prend quelqu'un pour la remplacer. Kamala Harris est plus impopulaire que n'importe qui.
Ouais, mais ils sont encore 330 millions, là.
Ouais. Mais je pense que c'est juste question d'image. Ça se fait pas vraiment tosser un président qui est elected, là, tu sais. Faudrait vraiment qu'il y ait un... En fait, faudrait qu'il se tasse de lui-même, que ce soit sa propre décision.
Ouais, mais je pense qu'il est maintenu en place par le staff. Il est sur le pilote artificiel, automatique, ce monsieur-là. Là.
Ah ouais, c'est sûr qu'il est issu de la Fed là, ou quelque chose de même, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Tu sais, on en a vu beaucoup là, au fil du temps. Il y avait des clips un peu altérés là, produits par le staff des Républicains. Là, tu sais, où, de temps en temps, tu vois qu'il y avait un peu de montage pour le faire plus mal pareil qu'il paraît déjà mal.
Là. Mais là, on n'est plus là, là.
Mais là, on n'est plus là. Là. Tu sais, la clip a fait le tour du monde. Le gars, il est... Puis, tu sais, le pire là-dedans, c'est que quand Trump était là, il a vraiment eu des discussions une année sur il faudrait qu'il passe un test cognitif. Là. Il est rendu débile, ce gars-là. il a même fallu une année, je pense, il avait fait une conférence de presse. Son médecin du staff est venu dire non, le président a passé des tests, puis son état mental est totalement normal, il est absolument incapable. La question se pose même pas en ce moment aux États-Unis. Malgré ce qu'on va voir dans quelques instants. C'est quand même assez délicieux, merci, il faut le dire.
Oui, je me rappelle de ça.
Donc là, Biden, il est dans son truc de primaire. Il est avec ses petits lutrins, là, Biden-Harris. Et il raconte des histoires. Tu sais, il jase, il raconte des histoires. Et là, il nous raconte, je mets la table un peu, puis on va entendre l'extrait. Il nous raconte qu'après son élection comme président, il s'est rendu à un sommet du G7. Et voici ce qui s'est passé. On traduira après pour les besoins de la cause. On y va. People have pled guilty. Oups, j'ai pas de son, moi non plus.
Moi, je l'entendais.
Je l'entendais, OK.
You know, right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. And it was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? And I looked at him, and the Chancellor of Germany said, what would you say, Mr. President, if you picked up the paper tomorrow in the London Times, and the London Times said, 1,000 people break through the House of Commons, break down the doors. 2 Bobbies are killed in order to stop the election of the Prime Minister. What would you say? I never thought about it from that perspective. What would we say if that happened in another democracy around the world?
Écoute, c'est confus, là. C'est extrêmement confus.
Ouais, fait que là, c'est ça, il raconte qu'il arrive au sommet du G7 et ça se passe dans le sud de l'Angleterre. J'ai pas vérifié si c'est vraiment là que ça se passait, puis c'était un peu confus le discours. Là. Et il dit je parle avec le chancelier de l'Allemagne, François Mitterrand.
Ouais, là, il se reprend. Après ça, il dit France.
Il dit non, c'était en France. Juste dire là, que.
Genre 15 secondes après, il redit le gars de l'Allemagne.
Oui, c'est ça. Juste dire que François Mitterrand, qui était président de la France, il est mort en 96.
Hey, écoute, man, on parle de... Lui, c'est le sommet du G7 quand il est devenu président. Fait que c'est quoi, c'est 2020, 2021?
2020.
Il y a 24 ans de différence entre le moment que Biden devient président puis que Mitterrand décède.
Non,
ça va pas, là.
François Mitterrand, président de la République française du 21 mai 1981 au 17 mai 1995, et il est mort quelques mois après la fin de sa présidence.
Mais tu sais, on dit souvent t'sais, qu'une personne âgée, quand elle a des problèmes cognitifs, justement, les premières mémoires à disparaître, c'est les mémoires récentes. Mm-hmm. Les mémoires, par contre, qui restent, c'est les mémoires qui datent de plus longtemps. Des fois même jusqu'à l'enfance.
Ouais, puis c'est sûr. Je suis pas mal certain que si on vérifie, il a dû avoir un meeting dans les années 90 avec Mitterrand, Biden, alors qu'il était sénateur ou je sais pas quoi. Là.
Exact.
Puis ça doit être ce flashback-là qui est comme qui s'est mélangé à l'actualité.
C'est là qu'on se rend compte que le poste de président aux États-Unis est d'abord et avant tout un symbole. Dans le sens que, tu sais, tu peux carrément avoir quelqu'un qui n'est plus tout à fait sur le poste, puis ça fonctionne quand même. C'est une institution, la présidence américaine. Là, vous comprenez qu'il y a peut-être, quoi, 2000, 2500 personnes qui travaillent pour lui. Là. Mais à toute fin pratique, c'est la raison pourquoi c'est pas dangereux pour eux autres d'avoir Donald Trump. Là. C'est pour ça que les Américains se sentent à l'aise d'avoir Donald Trump. C'est que, peu importe ce que tu mets là, avant de scraper un pays, il y a tellement de contre-pouvoir aux States que c'est pas grave. Chose que les Canadiens comprennent vraiment mal parce que les Canadiens, de notre côté, le gars qui se ramasse en haut, il a le pouvoir absolu sur tout. Là.
Oh oui, ben nous autres, c'est à toute fin pratique presque des dictatures pendant 4 ans. En tout cas, si tu es majoritaire ou si tu as une coalition comme c'est là, tu peux faire n'importe quoi.
Oh, c'est de la royauté.
C'est ça, c'est qu'en fait, c'est ça. C'est calqué un peu sur ce principe-là. Donc, c'est ça. Bref. Et puis, tu sais, en plus, je me suis dit, bon, on pourrait être bon jeu puis dire,
c'est pas la première fois.
Ben, d'un, c'est pas la première fois. Puis de deux, s'il y avait un nom qui se ressemblait,
ouais.
Tu sais, c'est pas moi.
Tu sais, les noms allemands, les noms français, ça ressemble pas tant, là.
Ouais, c'est ça, mais mettons que t'avais deux présidents, tu en as un qui s'était appelé dans le passé, Mitterrand, puis celui qui est là, il s'appelle Montauban, mettons, ouais. Au lieu de Macron. Tu diras, ah, il s'est mélangé de noms, les deux noms se ressemblent. Macron, Mitterrand, ça se ressemble calissement
pas. Non, il est plus là. Il est carrément plus là. Là.
Puis t'as-tu remarqué, là, il se ferme les yeux. Là, il dit quoi? Puis il y a comme des micro-resets, là.
Ce que je remarque beaucoup, c'est la foule. Tu le sens, le malaise. C'est tous des démocrates, c'est tout du monde qui veulent que ce monsieur-là réussisse, ils veulent que ce monsieur-là batte Donald Trump. Mais là, tu le sens, il y a un malaise dans la foule. Ah ouais, c'est à peu près ici qu'il faudrait applaudir. Hein. Normalement, le punchline était là. Hein. Ouais, OK, parfait. Écoute, man, ça va pas, là. Je trouve ça, c'est triste, là.
Ben oui.
Ah vous laissez ce monsieur-là prendre sa retraite.
Ah non, c'est pas...
Je comprends que vous avez un gros orange à battre et tout ça, mais vous avez encore le temps de le changer, le monsieur. Là. Envoyez-les prendre sa retraite. Là. Ça va pas, là.
Non, c'est vraiment pas chic. Ce qui nous amène à parlant de pas chic. À moins qu'on passe... C'est vrai, il y a une croustade aux pommes qui est en préparation hier. Un petit peu, on va passer ça avant de rentrer
dans le stade. Est-ce que les journalistes ont déjà été considérés comme l'élite de notre société? À tort ou à raison.
Oui.
À tort ou à raison. Mais les scribes de la société, vous allez vous rendre compte, finalement, sont peut-être moins IQ que vous pensez. Là.
Ouais, je penserais que oui. Et là, je m'excuse à l'avance, là, la vidéo est un peu... Est comme, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec la personne qui a mis la vidéo en ligne, mais on dirait qu'elle est comme ralentie, ou en tout cas, elle est pas c'est pas terrible, mais on comprend quand même ce qu'on a à comprendre.
Poiliev avait tellement pas le goût d'être là.
Donc, Poiliev, il est en genre de meeting, en point de presse devant les journalistes, et il se fait questionner. Ça va comme suit.
An internal email obtained by the Globe and Mail shows your party has advised MPs not to comment publicly on Alberta's new transgender health and education policies. Why are you telling MPs not to comment on this, and can you please tell us your opinion on your party's position on increasing restrictions on transgender youth?
Sorry, what's that? It was the last part of your question?
Why are you telling MPs not to comment on this, and can you please tell us your opinion on your party's position on increasing restrictions on transgender youth?
Okay, well, your question, it contains falsehoods. You should tell me what restrictions you're referring to.
That's the question they gave you.
That's the question they gave you. Who gave you that question?
That's from my office, from my desk.
Which desk is that?
Attends un peu, là, Chris.
Avez-vous compris ce qui s'est passé là, là? On pose une question à Poiliev, grosso modo. On lui demande... Pourquoi te donner des restrictions à tes députés pour ne pas parler de la loi en Alberta qui se passe présentement? Puis c'est quoi ton opinion par rapport à la politique de ton parti en lien avec les questions transgenres chez les jeunes? Puis là, Poiliev comprend difficilement la fin de la question, fait qu'il lui demande de la répéter. Puis là, après ça, le gars lui répète, fait que ça va bien. Là, quand Poiliev commence à répondre, il dit « Premièrement, il y a des faussetés dans ce que tu dis. » probablement qu'il n'y a pas réellement de restrictions sur parler de ça ou peu importe. Et le monsieur lui répond, le journaliste lui répond, le journaliste lui répond, ouais, mais c'est il est comme mal à l'aise, il dit, c'est parce que c'est la question qu'on m'a donnée. Il dit, contre qui t'a donné ça? Ben, le bureau à mon journal. Là. Ils m'ont donné cette question-là à poser. Fait que Jean-Pierre Poiliev lui demande une précision sur la question, il dit, il y a des faussetés dans ta question. Puis le gars, il se défend en disant, tu sais, genre, peut-être, mais je sais pas, c'est pas moi qui l'ai écrit, la question.
OK, mais tu sais...
Attends un peu, là.
Ah non, mais... disons une chose, là. C'est déjà arrivé, par exemple, pendant la pandémie, quand Gary Epi, monsieur Radio X, allait dans les points de presse, c'est déjà arrivé qu'il demande aux autres, ses collègues, est-ce que vous avez des idées de questions?
Oui.
Que je pourrais poser.
Il a déjà envoyé à Gary Epi.
Ben, c'est ça. Mais ça existe. Tous les journalistes font ça. J'imagine que, je ne sais pas moi, Emmanuel Latraverse, s'il reçoit Justin Trudeau en entrevue, ou peu importe, là, Paul Larocque.
Elle va demander à Mario, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, ils doivent se demander à une collègue, as-tu une idée de question que je pourrais y poser? Ou genre, cette question-là, penses-tu que c'est bon? Il y a une différence entre ça, puis l'autre qui s'en va questionner le journaliste avec le petit carton écrit. Un peu comme Claire Samson avait dit, là, que quand elle était à la CAQ, elle arrivait en commission parlementaire avec ses questions sur le projet de loi. Puis le staffer arrivait et disait « Non, garde tes questions, crisse ça dans la poubelle, c'est ceux-là que tu vas poser. » Et là, ça donne des questions du genre « Monsieur le ministre, pourquoi êtes-vous aussi incroyable? »
Pourquoi on engage des journalistes à ce moment-là?
Ouais, c'est ça. C'est
pas les gardiens de la démocratie, eux autres-là?
Non, c'est incroyable. Là.
C'est parce qu'il y a, il y a des choses assez intenses dans sa question. Là. Vous interdisez à vos MP de répondre à des questions par rapport à ça. T'avances une affirmation assez intense.
Oh, d'où ça?
T'as-tu des preuves de ça?
Ah non, c'est ça. Donc, voici la suite.
It's from Omni News.
OK.
As-tu vu as-tu que ça fait... Arrête-les. Sa face, elle veut tout dire. C'est genre, OK, I'm talking with a fucking idiot. Moi, c'est ce que je vois dans sa face. C'est genre, talking with idiots.
C'est drôle.
Justin Trudeau and the media have been spreading disinformation to distract from his doubling of housing costs, his quadrupling of the carbon tax, the crime wave that he's unleashed across the country. And they're doing that by spreading disinformation on this and other issues. Justin Trudeau does not want to defend his appalling record of sending 2 million people to food banks. And so he's spreading disinformation on this subject with the help of the media, who want to cover up for his failures.
C'est pas mal ça, non?
Ça nous amène à la publication d'hier. Je la mettrai pas à l'écran, là, parce que je l'ai pas sur la
main.
Ils
sont bien pas brillants.
Ben non, ils sont pas brillants. Mais hey, la publication du Devoir d'hier, sont allés en Serbie. Hein. Imaginez-vous donc, c'est pas drôle en Serbie. Là. Il y a des médias à la botte du gouvernement payés par le gouvernement. Ils écrivent ça sérieusement, là, eux autres, là, sur leur compte Twitter.
Les médias partagent la désinformation. Ouais. Parce qu'en sens, le gouvernement était là, t'as peu. Là. Been there, done that, hein? On a déjà vu ça. Eux autres, ils pensent réellement qu'ils sont neutres et indépendants, pour vrai, dans leur tête. Là.
Oh,
ben, vous ne voyez pas aller.
Ah non, je ne vois pas aller par tous eux autres. Là. Donc, ça, c'est la bombe qui est sortie hier, entre guillemets. Là.
Le stade
olympique. Un nouveau toit pour 870 millions.
D'habitude, tu coules de l'information parce qu'on avait coulé, ou en tout cas, on avait eu entre les branches le chiffre de 750. Normalement, l'objectif de couler le 750, moi, j'étais là, ils vont annoncer de quoi à 500, genre. T'sais, ils ont coulé 750, ouais. Fait peur au monde, fait réagir le monde.
Ouais, la technique du monomarchand.
Ouais, exact. T'sais, j'étais sûr que c'était ça. Il y a une chose que je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas de voir un chiffre plus élevé que 750-là. Man, 870 millions, on frôle le milliard. En fait, ça va dépasser le milliard. On sait comment ça marche. Là.
Ah non, c'est ça. Et là, on nous dit... l'architecte Roger Talibert avait conçu pour les Jeux olympiques de 1976 la grande tour penchée qui a fait la renommée du stade. C'était pour installer une toile qu'on pourrait monter et y déployer, explique-t-il. Mais l'installation d'un premier toit rétractable s'est avérée un désastre en 1987, tout comme l'installation de la toile Teflon en 1998.
Sais-tu combien qu'il y a de déchirures dans cette toile, dans cette toiture-là depuis le début?
C'est là que je m'en allais, là.
Non, mais attends un peu. Là. Pensez-y. Là. Guessez un chiffre. Mettez-les dans les commentaires direct là, puis écoutez-les après. Là. Guessez un chiffre combien de déchirures de toit on a eu. On va vous dire le chiffre, vous allez capoter.
Ben, je t'ai entendu dire un chiffre tantôt, puis je suis pas sûr que c'est le bon. Mais,
parce que t'en as un autre, toi.
Ben, vas-y.
Moi, ce que j'avais dans le rapport annuel, c'était 17 000 déchirures.
Dans l'article de journaux, on parle de 20 000. On parle de 20 000
déchirures, merde.
Donc là, on serait rendu à la troisième toiture du stade. Ça a l'air que ça va tout changer, là.
T'as un couturier à temps plein, à 20 000 déchirures depuis l'ouverture.
Oh, oui, il est dedans aussi. Là. Donc voici un peu l'historique de la saga du toit. Donc en 1976, on inaugure le stade qui est à l'époque pas prêt. Hein. On va juste rappeler ça. Quand les Olympiques ont lieu, le stade n'est pas fini. Il n'y a pas de tour après. Puis il manque des bouts.
Tellement Québec, ça.
Ben, c'est ça, mais l'histoire commence, c'est chapeau de roue. Et 1987, le premier toit est installé. Donc, c'est un toit en Kevlar. Il déchire l'année suivante à la suite de vents violents. En 1998, Stan y installe une toile en Teflon et en fibre de verre qui est installée par la firme Bird Air. En remplacement du toit qui avait été installé 11 ans plus tôt à cause de multiples déchirures. L'année suivante, le toit s'effondre sous la neige en plein montage du salon de l'auto, laissant un trou béant dans la toile. Et là, la marde commence. Ouais, c'est ça, comme dit Joey, c'était les vents dominants à l'époque qui étaient quand même... À l'époque, c'était pas pour les vaccins, mais c'était pour... très bonne image. À l'époque, c'était pour autre chose. Mais là... Écoutez bien ça, là, le début de la saga. Et là, je vous jure que c'est vrai ce que je vais vous lire là. Là. C'est capoté. Là. Le journal en a fait une version très courte. Là. Mais regardez, pour moi, c'est le symbole du taponnage québécois. Je suis sur le site du Parc olympique. Là, et écoutez bien la série d'étapes interminables sur la réparation du toit. Donc, on dit en 1999, donc le panneau se déchire, comme je l'ai dit, il y a des pluies, il pleut dans le stade, le salon de l'auto, c'est une catastrophe.
Tu peux bien sentir la charogne là-dedans, pareil. Hein?
À août 2002, on commence à réfléchir à réaliser un troisième toit. À août 2002. Deux ans plus tard, on a l'appel de candidature, donc le processus de préqualification des fournisseurs éventuels. Trois candidats soumettent leur dossier, mais en raison de problèmes techniques, toutes les candidatures sont rejetées. Deux ans plus tard.
Problème technique étant changement de gouvernement.
On s'en va en 2005. Second appel de candidature, quatre firmes soumettent leur candidature. Deux firmes sur quatre obtiennent la note de passage en démontrant, en démontrant au comité d'évaluation leur capacité à réaliser le projet. Les firmes retenues pour la suite du processus sont Janus Atlas et SNC-Lavalin.
Oh, des noms connus.
À août 2005, l'appel de proposition ou appel d'offre sur invitation ou aux deux candidats finalistes. Janvier 2006, Janine Atlas se retire du dossier. SNC-Lavalin continue à développer son projet. Juin 2007, entente hors cours, le dossier Bird Air est clos. Donc, la compagnie qui a installé le toit de marde en 1998 s'est effoncée. Il y a eu une entente hors cours parce qu'évidemment, ils ont dû être... vous comprenez que ça a coûté quand même plusieurs millions, ce truc-là. Ils ont voulu les poursuivre. Bon, bref. Octobre 2007, est rendu cinq ans plus tard, SNC-Lavalin dépose sa proposition. Février 2008, validation du concept par le jury, conseil en architecture et le comité de mon cul s'accommode. Décembre 2008, le conseil d'administration de la RIO approuve la proposition technique de SNC-Lavalin et informe le gouvernement du Québec. Hey, avant que ça se rende au gouvernement, on a passé de 2002 à 2008. Deux ans plus tard, juin 2010, avis d'intention. Septembre 2010, le conseil d'administration décide que, puisqu'une seule candidature répond aux attentes, la RIO procédera à un nouvel appel d'offres avec un différent mode de financement. Toutes les options de toiture seront analysées.
Ah ouais? Juin 2011. L'option de crisser à terre?
Juin 2011. La RIO dépose le dossier de présentation stratégique pour le remplacement de la toiture, blablabla. Avril 2012, le Parc olympique transmet une copie du travail du dossier d'opportunité au ministère du Tourisme. Des recommandations sont faites. Octobre 2015. Ça a commencé en 2002. On est rendu en 2015. Une version bonifiée et mise à jour du dossier d'opportunité est déposée au ministère pour étude. Le volumineux document de 850 pages et 26 annexes est également analysé par la Société québécoise des infrastructures.
Ils sont malades. Il y a combien de monde qui sont payés à rien faire dans ce gouvernement-là?
Hey Chris, ça fait 20 ans qu'ils sont sur un toit.
Ça ressemble à 20 quoi? Ans. Ça ressemble à quoi la journée de travail d'un fonfon qui travaille sur un rapport comme ça, là?
Imagine-toi, chérie, c'est quoi que tu as fait dans ta carrière? Ben moi, j'ai passé 22 ans sur la refonte d'un toit. Ah ouais, y a-tu un toit? Non. Il n'y a pas de toit encore.
T'as-tu le droit à ta pension? Oui. Bon, ben c'est parfait.
Mars 2016, visite de la ministre du Tourisme au Parc olympique. La tour du stade et les combles de la toiture sont visités en compagnie d'experts du Parc olympique. Octobre 2017, le mémoire sur le dossier d'opportunité pour le remplacement de la toiture du stade olympique est signé par la ministère du Tourisme. Présentation et acceptation du dit mémoire au Conseil des ministres. Le Parc olympique retient les services de la firme Génie Conseil WSP à la suite d'un appel d'offres pour l'accompagner dans le projet de remplacement de la toiture. Ce partenaire fournira des services d'ingénierie en structure et en électricité mécanique. Et là, ça, à ce moment-là, ça correspond avec une annonce du gouvernement du Québec. À l'époque, c'est Philippe Couillard qui est encore là. On s'en va d'un gouvernement sortant. Et on nous dit que pour, j'ai le montant quelque part ici, pour 200 millions, 200 à 250 millions, on refait le stade. Ouais, 2017, le gouvernement libéral de Philippe Couillard annonce un projet de remplacement de 200 à 250 millions pour le toit. Et je termine les dernières étapes. Octobre 2019, le Parc olympique lance un appel de qualification pour trouver des candidats compétents pour la conception, la construction, le financement et l'entretien de la nouvelle toiture du stade. La même affaire qu'en 2003 puis en 2007. Puis janvier 2020, la date de dépôt est prolongée de 5 semaines. Juin 2020, le Parc olympique annonce que ses groupes Pomerlo mené par deux entreprises québécoises, qui est le seul candidat qui a déposé une proposition. 2020, la régie des installations olympiques, whatever the fuck that is, devient la société de développement et de mise en valeur du parc olympique. Après moult...
Change pas de nom, on change le nom.
Mars 2021, après moultes analyses, le parc olympique écarte l'option de démontabilité et concentre ses efforts sur une toiture fixe, autrement dit, plus de toit qui ouvre et qui ferme. Juillet 2023, le parc olympique annule l'appel de proposition et lance un avis d'intention incluant le remplacement de l'anneau technique. Et là, on arrive à 2024, l'annonce du gouvernement du Québec pour le remplacement de cette... Écoutez, c'est... Quoi dire d'autre que c'est un fiasco du début à la fin, cette affaire-là? Mais la ministre du Tourisme, elle a bu le Kool-Aid puis solide, là.
You have to believe, Frank. You have to believe. La NFL au Stade olympique. You have to believe.
Non, mais la NFL de quoi, c'ti? Je veux dire, qui va venir ici, là? Jouer.
NFL!
Il y aura un club d'expansion?
Non, une petite game, là, comme les Bills font à Toronto une fois de temps en temps.
Ouais, moi, ça, je t'écœurais de ce niaisage-là. Là. Ils te vendent des infrastructures à coût de centaines de millions de dollars. Puis finalement, ça va être quoi? Ça va être pour une pratique des Kings. Puis il y a une game hors concours des Titans du Tennessee. Là. Ben, pouvez-vous juste aller vous faire foutre? Là? C'est quoi cette crise de niaisage? Là, on dirait qu'on est une nation de pygmées. Ah, nous autres... on va se doter de grosses infrastructures. On dirait là, comme les Soviétiques qui faisaient des piscines olympiques dans des villages perdus au bout du monde. Ça va avoir l'air big, puis on va attirer plein d'affaires avec ça. Ça fait coloniser en esti. Les péquistes aiment ça utiliser ce mot-là. Là. Mais ça, je suis désolé, mais ça fait... Nous autres aussi, on va avoir un gros stade.
La Presse, c'est un journal très montréalais.
Oui.
OK. Fait que, tu sais, le stade, c'est pas mal dans l'est de Montréal, dans le côté francophone de Montréal, ça.
Ouais.
Fait qu'aujourd'hui, dans la presse, les nouvelles les plus lues, c'est tout lié au stade.
Non.
Première nouvelle la plus lue. Quand Taylor Swift snob Céline Dion. Le roi Charles atteint d'un cancer. Le top modèle au top, sans mérite.
Non. La presse s'est rendu l'éco-vedette.
Mais tu sais, c'est pas les nouvelles mises en avant par la presse, c'est les nouvelles les plus lues. C'est ça qui intéresse le monde. Tant avec ton stade, t'es sous 870 millions, pourquoi t'es offusqué le matin? T'es donc bien choqué tout le temps. Qu'est-ce que tu fais que chialer dans la vie, Frank? Peux-tu parler de Céline un peu?
By the way, on parlera de Céline plus tard.
René Charles, tu le trouves-tu beau?
Je sais même pas c'est quoi.
Écoute, il faut que ce podcast-là soit écouté. Là. Lâche le stade. Là. Parlons de Taylor Swift.
Ouais, Taylor Swift et Céline, ça m'intéresse vraiment. Là. Ça a l'air qu'elle était pas fine avec. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris ce bout-là. Je suis désolé, ça m'a échappé. Ici, c'était donné des claques d'en face comme la shot avec. L'autre dont j'oublie le nom, là, les deux messieurs qui sont crissés des claques d'en face, ça aurait été le fun au moins. Là.
On a-tu la mais clip là, de Caroline Proulx?
Oui, j'ai la clip de Madame Proulx. Donc, gracieuseté de Moret qui est de retour sur Twitter après des mois d'absence.
Et Moret, l'hyperactif sur Twitter, ça donne beaucoup de contenu.
Ah oui, ça donne beaucoup de contenu. Et voici Caroline Proulx. Qui,
Frank, dans la merde.
Ben oui, je sais bien, mais écoute, c'est...
Les villes qui vendent le plus de billets au Canada et tout ce qu'on a échappé comme concert cette année qui sont allés du côté de Toronto ou de Vancouver, en 2023 uniquement, Guns N' Roses, Coldplay, Beyoncé, Ed Sheeran, Red Hot Chili Peppers, c'est énormément de retombées qui échappent à Montréal. Les villes qui...
Alors, qu'est-ce qu'elle dit là, elle, là?
Fait que là, avec son bol de toilette recouvert par une nouvelle toile, on aurait tous ces groupes de musique, là.
Mais c'est parce qu'on les a tous, ces groupes de musique-là.
Mais là, à ta
place. Guns N' Roses, ils peuvent venir au centre Vidéotron ou bien au centre Bell.
Attends un peu. On les a pas eu parce que le toit était déficient. Est-ce qu'on les a pas eu parce que le toit est déficient ou bien non parce que le son, c'est vraiment de la merde dans ce stade olympique?
Non, mais.
Y avez-vous pensé à ça? Êtes-vous allé au stade récemment?
C'est pas une place pour faire des concerts, OK?
Ça pue, c'est lettre. Et le son, l'acoustique est merdique. Là. De quoi vous parlez? Ed Sheeran, il veut pas venir te chanter ses tunes de bonne femme ici, là? Pas dans le stade olympique. Voyons.
Ben non, mais...
Il va faire ses tests de son. Il va dire, voyons, Chris, ça sonne bien à marde. On remplace le toit, là. On n'améliore pas l'acoustique, là.
Ça n'a hey, pas rapport, là.
C'est... La dernière fois que je suis allé là, c'était une game des Blue Jays de Toronto contre les Pirates de Pittsburgh. Man, c'était dégueulasse. Moi, je suis arrivé là 2 heures avant avec les jeunes pour qu'on puisse voir les pratiques au bâton, tout ça. Ça sentait la pisse partout. On était là avant que le monde soit là. Non, c'est funny.
Moi, je regarde là, événement à venir au Centre Bell. Aerosmith, une couple de concerts de gars avec des chapeaux de cowboy que je connais pas. Iron Maiden, hein? Bruce Springsteen. D'après moi, ces gens-là, ils attendent pas après le stade olympique. Là.
Je pense qu'ils visent plus le Centre Bell.
Ah non, mais je veux dire, on a construit le Centre Vidéotron à Québec parce que le Colisée Pepsi était rendu désuet, notamment pour recevoir des artistes.
Ouais, mais Taylor Swift fait juste des stades de football, oui, Frank. Si on veut Taylor Swift, ça nous prend un stade. On veut Taylor Swift.
Ah, yes. On va en construire combien des affaires dans l'espoir d'avoir de quoi?
T'sais? Ben, PKP, il l'a dit, les Nordiques s'en viennent. Quand Bettman arrive et il parle des équipes potentielles dans le futur, il en nomme 4-5 sans nommer Québec, mais PKP, lui, il est sûr de sa shot. Ça,
oh ouais. Il a
ça
nommé Atlanta, Houston, il a nommé Salt plein de places
dans même. Ouais, name it.
Oh ouais, mais il n'y avait pas ça.
On est tellement niais, là. Mais tu sais, les gens, je dis on est tellement niais, c'est pas les Québécois parce que les gens embarquent pas là-dedans. J'ai partagé hier sur Twitter.
Oh ouais, c'est bon ton affaire, là. Repartage-le. Les gens étaient comme. Soit, en fait, il y a deux réactions. Ils rient ou sont en crise.
Exact. Mais tu sais, je veux dire, c'est hallucinant, là. Regardez les réactions Twitter des pas Twitter, mais de Facebook des gens. C'est RDS. C'est pas moi qui le partage. Tu sais, si c'est moi qui le partage, c'est biaisé à côté. RDS, c'est la chaîne de sport au Québec, ça, là. Donc, les gens devraient être enthousiastes à l'idée de rénover leur stade olympique. Il y a 2059 réactions quand je prends ça hier. Et si on y va en détail vraiment, 669 fous de la gueule du gouvernement. Tu sais, je veux dire, tu viens de te faire entuber pas de Valzeline pour 870 millions de pituries. Là. Faut-tu pas que tu les prennes au sérieux, ces politiciens-là, pareil, pour faire ça? Là. Et 581 personnes plus choquées, qui, à mon avis, est la réaction la plus normale. Mais bon, pour être choqué, il faut que tu saches compter, probablement. Je veux dire, c'est le 2/3 des gens qui ont une réaction très, très, très peu enthousiaste sur l'idée de rénover le stade. Puis là, évidemment, tout le monde dit, « Christian, une bombe là-dedans! » On sait qu'on ne peut pas mettre de bombe, là, OK? On n'est pas cave, là.
Il doit être démonté, ce truc-là. Il ne peut pas se dynamiter.
Alors ça, c'est l'autre affaire. On a sacré ça par-dessus les stations de métro. Ouais, on n'a pas pensé qu'un jour, peut-être, qu'on voudrait le mettre à terre. Là, fait que c'est hyper complexe, le défaire, mais c'est pas vrai que ça va coûter. Puis là, les gens sont là, « Ah ouais, mais ça coûterait plus cher, le défaire. Ah ouais, ça va coûter plus que 870 millions de défaire. Ah ouais, pour vrai, là, t'es sérieux. Là. OK, ouais. Mettons que c'est vrai. Mais il ne faut pas le comparer à 870 millions. Il faut le comparer au coût d'entretien futur, parce que ce stade-là, il n'y a aucun revenu. Là. Oh ouais, il y a des petites activités, un petit salon d'exposition. Non, t'as peu. Quand tu grattes un peu, là, tu trouves à peu près 20 millions de revenus annuels pour le stade olympique. Mais ils ont 28 millions de dépenses. Hey, il y a du staff là-dedans. Il y a 200 employés là-dedans. Là. 200 fucking employés. Là.
Ouais, mais chose là, Caroline, là, elle nous dit que il va avoir là, d'ici 10 ans 1,5 milliard de retombées économiques.
Hein? Hein?
Oh.
Qu'est-ce qu'il a dit là?
1,2 ou 1,5, je sais plus. Là. J'ai pas le chiffre devant les yeux. Là.
De quoi qu'elle parle? Hey! L'année dernière, là, en 2022, ils ont ramassé quelque chose comme 2 millions de dollars en stationnement. Comment on va faire pour se rendre à 1,5 milliard, Caroline? Tu n'es même pas capable de faire de l'argent avec ton parking.
Bah oui, mais on va avoir Guns N' Roses puis Foreigner. Ah, un show de Foreigner. Ah!
Non, prends pour des valises. Là. Mais l'affaire, c'est que depuis le début, quand tu as fait l'historique du temps, là, est-ce que tu vois un leadership gouvernemental ou ben non, tu vois plutôt des solutions avancées par le comité du RIO? C'est toujours des solutions avancées par le comité du RIO. Pensez-vous vraiment que des êtres humains sensés vont offrir au gouvernement la possibilité de voir leur poste disparaître? Sérieusement, là. Pensez-vous vraiment que la régie des installations olympiques va offrir au gouvernement, écoute, après toutes nos analyses, Ce qui est le mieux, c'est de détruire le stade, puis les 200 personnes qui travaillent ici, on perd tous nos jobs. Dont les 11 personnes de ressources humaines qui servent à gérer les 200. Hey, t'as une compagnie de 200 employés, t'as 11 personnes aux ressources humaines. Mm-hmm. C'est efficace rare, le gouvernement. T'as même une quinzaine d'employés au développement technologique, toi, mon ami. Le stade olympique, on l'a un département de TI, toi. Incroyable, non, là. Il y a un département de TI au stade olympique.
Puis, tu sais,
ils ont 6 personnes au marketing. 6 fucking personnes au marketing.
Ah non,
il se passe rien.
Mais avant qu'on passe à la partie Patreon, il faut juste dire de quoi. Puis dans la partie Patreon, on va avoir y a un petit débat à l'ajoute avec Paul Larocque, avec Mathieu Bock-Côté, puis l'excellent Gaétan Barrette qui s'est surpassé encore cette fois-ci dans son analyse. Lui, il dit que le stade olympique, il a comparé dans son intervention le stade olympique avec la Tour Eiffel. Il dit que c'est niveau patrimoine. Hey, je te le dis.
Ouais, hey.
Comment je pourrais dire ça? Dans l'analyse du patrimoine, là, c'est la même chose. Tour Eiffel, d'ailleurs, c'est bien connu. Plein de gens viennent à Montréal pour se prendre en photo avec le stade olympique en background. Moi, je vois ça partout sur Internet, des cartes postales, tout ça. Fait que, tu sais, c'est bien connu. Mais.
Quel drôle de place.
Je pense que c'est important de le dire avant d'immigrer. Là. La réalité, c'est que là, on est vraiment dans un exemple parfait du sunk cost fallacy dont on parle souvent.
Oui.
C'est vraiment le biais psychologique. Tout le monde le vit. Vous achetez une maison, c'est un esti de foire au malheur, vous mettez de l'argent dedans, puis à un moment donné, tu te dis, ouais, peut-être que je pourrais la vendre. Puis là, toi et ta conjointe ou votre conjoint, là, vous jasez ensemble, puis vous arrivez avec la réflexion suivante. Ouais, mais on a tellement mis d'argent puis d'efforts. C'est si près du but. Ben, ça, là, c'est exactement ce qui se passe avec le stade olympique. C'est que comme depuis sa construction, c'est catastrophe, après imprévu, après dépassement de coûts, là, on est rendu au stade où on se dit, ouais, mais encore un petit coup, c'est quand même moins cher que le démolir, alors qu'on ne voit pas que, ou l'abandonner, ou je ne sais pas quoi, alors qu'on ne voit pas que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va être à recommencer encore.
Ouais.
Encore et encore, jusqu'à temps qu'il soit complètement désuet, puis là, on va être obligé de le démolir en je sais pas quoi, 2080.
Écoute, Frank, il nous reste une heure de show sur Patreon. Voici comment vous abonner. Vous avez le droit à 7 jours gratuits aussi si vous le faites aujourd'hui. C'est peut-être le moment de l'essayer. On continue avec une heure de notre côté. Moi, je veux parler d'un petit retour qu'on a fait hier avec Radio Pirate. J'ai parlé justement du sport féminin beaucoup. Qu'il y avait des athlètes transgenres présentement qui commençaient à évoluer dans le sport féminin, qu'on allait détruire le sport féminin. J'ai des témoignages de parents qui m'ont écrit après la chronique. Donc, on va en parler dans la partie Patreon. Je vous encourage à traverser de l'autre côté de la clôture. C'est peut-être payant, mais c'est bon.